Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de la Formule 1, chemin du monde d'automobile. Partie 1, des débuts aux années 1970. L'histoire de la Formule 1 trouve son origine dans les courses automobiles disputées en Europe dans les années 1920 et 1930. Un champion du monde de Formule 1 est créé en 1950, puis une Coupe des constructeurs en 1958 qui devient le championnat du monde des constructeurs à partir de 1982. L'histoire de cette discipline est étroitement liée aux performances des voitures et à l'évolution de la réglementation technique qui régule les compétitions. Le championnat du monde des pilotes est officiellement lancé le samedi 13 mai 1950 à Silverstone à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Seulement 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, la tenue d'un championnat du monde est un projet audacieux, les économies européennes commençant seulement à se relever. Logiquement, les premiers plateaux du championnat sont assez disparates et comme un symbole, c'est l'Alfa Romeo 158, une voiture dont la conception remonte à 1937, qui domine les débats. Le vétéran italien Giuseppe Farina remporte la manche d'ouverture du championnat avant de devenir le premier champion du monde de l'histoire, battant son coéquipier argentin Juan Manuel Fangio, lequel prendra sa revanche l'année suivante. Malgré la montée en puissance de la Scuderia Ferrari, qui a remporté au Grand Prix de Grande-Bretagne 1951 sa première victoire grâce à l'Argentin José Froilán González et qui est passé près du titre avec Alberto Ascari, la santé financière du championnat apparaît incertaine et le retrait annoncé d'Alfa Romeo en fin d'année fait craindre un manque de concurrents. Comme espéré, de nouveaux concurrents, pour la plupart britanniques, répondent favorablement au passage à la Formule 1. Si les grilles se garnissent, cela n'empêche pas la large domination de Ferrari qui écrase la compétition avec son chef de file, Alberto Ascari. La concurrence prend forme en 1953 avec l'émergence au plus haut niveau de Massaretti, qui peut compter sur le retour de Juan Manuel Fangio, absent sur blessure la saison précédente. Ascari est à nouveau titré, mais le duel entre Ferrari et Maserati donne lieu à Reims et à Monza à ce que les journalistes appellent à l'époque les courses du siècle, signe qu'après des débuts laborieux, le championnat du monde est bel et bien lancé. La Formule 2 avait relancé le championnat et l'instance dirigeante décide à partir de 1954 de l'ouvrir à nouveau aux monoplaces de Formule 1, la cylindrée maximale autorisée passant de 2 à 2,5 litres. Non seulement cette décision ne fait pas fuir les petits artisans, mais elle attire deux prestigieux constructeurs, Mercedes-Benz et Lancia. Symbole du dynamisme du championnat, chacun des 4 grands constructeurs engagés présente une monoplace aux caractéristiques différentes. V8 pour Lancia, 8 cylindres en ligne pour Mercedes-Benz, 6 cylindres en ligne pour Maserati et 4 cylindres en ligne pour Ferrari. Les saisons 1954 et 1955 sont largement dominés par Mercedes, ce qui permet à Fangio de décrocher 2 titres mondiaux supplémentaires. La domination de Mercedes est telle qu'elle fait craindre pour l'équilibre du championnat, d'autant plus que Lancia et Maserati sont en proie à d'importants soucis financiers. Mais la décision de Mercedes, en partie motivée par le drame des 24 heures du Mans, où plus de 80 spectateurs furent tués par les éléments de la Mercedes 300 de Pierre Levesque, de quitter la compétition fin 1955 et la cession par Lancia de ses prometteuses des 50 à Ferrari permettent de revenir au duel Ferrari-Maserati. De cette lutte de constructeurs, un homme émerge, champion en 1956 sur Ferrari, puis en 1957 sur Maserati, Fangio porte son palmarès à 5 titres mondiaux. Arrivé en Europe en 1948, l'Argentin Juan Manuel Fangio s'affirme rapidement comme l'un des meilleurs pilotes de la discipline et du championnat du monde, créé 2 ans plus tard. Avec 5 titres mondiaux, dont 4 consécutifs, de 51, 54, 55, 56 et 57, il marque durablement les esprits. Il gagne 24 des 51 Grands Prix qu'il a disputés. De tous les pilotes affrontés par Fangio au cours de ses 10 années de présence en Formule 1, seul l'Italien Alberto Ascari, champion du monde en 1952 et 1953, et le Britannique Stirling Moss ont réellement su se montrer à la hauteur du maestro argentin. Après la retraite de Fangio, Moss confirme son talent. Mais autant Fangio a été capable de convertir son talent en un palmarès exceptionnel, autant Moss, plus malchanceux, mais également souvent peu inspiré dans ses choix de carrière, ne décroche pas le moindre titre mondial et doit se contenter de 4 titres officieux de vice-champion du monde et de 3 places de 3e au championnat entre 1951 et 1961, souvent derrière des pilotes considérés comme moins talentueux, ce qui lui vaut le surnom de champion sans couronne. Moss amorce néanmoins une longue ère de suprématie des pilotes anglo-saxons dans les années 1960. Enzo Ferrari est né le 18 février 1898 à Modène, en Émilie-Romagne. Son père et son frère meurent de la grippe. À l'issue de la guerre 1914-1918, il rentre à la Fiat. Il commence comme ouvrier, il devient pilote en 1919. Il fonde en 1929, chez Alfa Romeo, la Scuderia Ferrari, une écurie de course qui allait devenir une pionnière, puis un pilier du championnat du monde de Formule 1. Il gardera ses distances avec Mussolini. Modène est en Italie, la ville la plus rouge, la ville communiste. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il vend des moteurs d'avion et devient riche. En 1947, il crée la firme Ferrari Automobili, qui conçoit, fabrique et commercialise des voitures de sport de très haut gamme. Surnommé Il Commendator, le commandeur, Enzo Ferrari consacre sa vie à son entreprise, au point de devenir une figure historique majeure, internationalement connue du sport automobile. Son logo, le cheval cabré. Il symbolise la relance italienne d'après Deuxième Guerre mondiale. L'Italie ne doit pas rater la deuxième révolution industrielle. En 1956, il perd son fils unique, Tino, âgé de 24 ans. Enzo Ferrari a toujours placé la compétition automobile avant la construction industrielle de voitures de route, et c'est par la compétition que Ferrari est devenu un des plus fameux créateurs de voitures de prestige au monde. Il décède le 14 août 1988 à 90 ans, des suites d'une affection rénale dont il souffrait depuis plusieurs mois. À ce jour, la Scuderia Ferrari détient le record du nombre de titres au championnat du monde des constructeurs, avec 16 victoires. La physionomie du champion du monde change brutalement en 1958, lorsque les constructeurs britanniques, qui jusque-là faisaient surtout de la figuration derrière les grandes marques italiennes et Mercedes, touchent enfin les fruits de leur travail de fond. Un pilote Ferrari est titré, Mike Hawthorn, mais la première coupe des constructeurs revient à Van Baal, tandis que Cooper crée la sensation en faisant triompher, via le Rob Walker Racing à Buenos Aires et à Monaco, une monoplace à moteur central arrière, mue par un moteur Coventry Climax de 2 litres, qui rend plus de 100 chevaux à la concurrence. Enzo Ferrari voit cette innovation d'un œil sarcastique et à cette phrase sans appel, « Les chevaux tirent la charrue, mais ne la poussent pas ». Cette solution technique qui privilégie la maniabilité au détriment de la puissance pure ne tarde pas à faire école. Elle contribue également à faire changer d'air le champion du monde, qui n'est plus affaire de grands constructeurs, mais désormais d'assembleurs, de garagistes, comme les appelle Enzo Ferrari avec mépris, l'accent étant mis sur la conception du châssis. Les premiers succès de la Cooper sont confirmés en 1959 et 1960 par les 2 titres mondiaux de l'Australien Jack Brabham, tandis que 2 autres marques, BRM et Lotus, s'engagent sur une voie identique. En 1961, pour freiner l'escalade des performances, la cylindrée maximale des Formule 1 passe de 2,5 à 1,5 litres. Bien qu'annoncée depuis octobre 1958, cette formule n'a pas été anticipée au mieux par les constructeurs britanniques, ce qui laisse le champ libre à Ferrari qui, enfin, passé au moteur arrière, domine le championnat. Ses pilotes sont hélas départagés de la pire des façons. Wolfgang Van Trips se tuant lors de la dernière manche de la saison à Monza, offrant du même coup le titre à l'américain Phil Hill. Minée par une crise interne durant l'hiver, la Scuderia est incapable de faire fructifier ce succès et les Britanniques reprennent leur domination dès 1962, Graham Hill s'imposant sur sa BRM. Cette saison est également marquée par l'émergence de Jim Clark, qui frôle le titre au volant de sa révolutionnaire Lotus 25, monocoque qui rompt avec les traditionnels châssis tubulaires, œuvre de l'ingénieur Colin Chapman. Le duo pilote Clark, constructeur Chapman et ingénieur, réalise le doublé pilote-constructeur au championnat 1963 puis 1965, Ferrari ne parvenant qu'à redresser brièvement la tête en 1964 grâce à l'ancien champion motocycliste John Surtees qui réalise l'exploit d'être titré sur quatre roues après l'avoir été sur deux. Colin Chapman est un ancien ingénieur automobile britannique, créateur de la fabrique d'automobiles sportives Lotus. Diplômé en ingénierie des structures à l'Université de Londres, il a effectué son service militaire au sein de la RAF. Passionné de course automobile, il tente d'y appliquer les principes aéronautiques, principalement la recherche de la légèreté. En 1956, il crée sa première monoplace de Formule 1, la Van Wall VW56. Puis, en 1958, il dessine la première Lotus F1, la Lotus 16. Par la suite, Jim Clark, entre autres, mène régulièrement les monoplaces conçues par Chapman à la victoire. En 1966, un nouveau changement réglementaire est instauré qui fait repasser la cylindrée maximale à 3 litres, l'objectif étant de refaire de la Formule 1 la discipline reine du sport automobile, statut contesté par les puissants prototypes du championnat du monde des voitures de sport. Les deux premières saisons de la nouvelle Formule 1 sont marquées par les balbutiements de la plupart des concurrents qui peinent à trouver la motorisation idéale. La palme de l'innovation revenant à BRM avec son moteur H16 qui s'avéra être un fiasco. Ce dont profite Jack Brabham, adepte de solutions techniques rustiques, châssis tubulaire et moteur EBCO dérivé d'un bloc Oldsmobile pour briller. L'Australien Jack Brabham, en 1966, décroche son troisième titre mondial au sein de l'écurie qu'il a lui-même fondée. Toujours à la pointe de l'innovation, Lotus, qui s'est fourvoyé en achetant à BRM le moteur H16, réagit en commandant à Cosworth, via le financement de Ford, un moteur qui fera date, le V8 Cosworth DFV, qui dominera pendant près de 15 ans. Après des débuts prometteurs en 1967, la Lotus 49 domine la saison 1968, aux mains du vétéran britannique Graham Hill, qui a suppléé son coéquipier Jim Clark, victime d'un accident mortel en début de saison en Formule 2. Le palmarès de Jim Clark, deux titres mondiaux décrochés en 1963-1965, ne reflète que partiellement la domination qu'il exerce en piste sur ses contemporains. Après sa mort en 1968, dans une épreuve de Formule 2 à Hockenheim, un autre Écossais, Jackie Stewart, s'affirme comme le pilote le plus complet du plateau. Champion des années impaires, Stewart est titré en 1969, 1971 et 1973. En plus de son talent, Jackie Stewart marque l'histoire de la Formule 1 en étant le premier pilote à gérer sa carrière et sa fortune de manière très professionnelle. Il est également celui qui engage le combat en faveur d'une plus grande sécurité sur les circuits. La puissance croissante des moteurs, plus de 400 chevaux, commence à causer des problèmes d'adhérence aux monoplaces. Dans ce contexte, apparaissent au Grand Prix de Belgique en 1968 les premiers ailerons, initialement fixés directement sur les bras de suspension, conçus selon le principe d'aile d'avion inversée et destinés à plaquer la voiture au sol. Fin 1968, une autre solution est explorée par plusieurs écuries, Lotus, Matra, McLaren, c'est la conception de monoplaces à quatre roues motrices, afin de répartir la puissance entre les trains avant et arrière. Les difficultés de mise au point de telles monoplaces et le surplus de poids engendré conduisent les ingénieurs à abandonner cette voie et à développer les ailerons, ce qui conduit à des solutions extrêmes, les voitures étant munies d'ailes au perché à l'avant comme à l'arrière. Le double accident des Lotus de Hill et Rin au Grand Prix d'Espagne, à quelques tours d'intervalle au passage d'une bosse, les ailerons des deux voitures ayant cédé, envoyant leur pilote dans les murets de protection, conduit le pouvoir sportif à interdire sine die ces ailerons hauts. La progression rapide des performances n'est pas sans conséquence sur le taux de mortalité des pilotes. La fin des années 1960 et le début des années 1970 constituent l'une des périodes les plus noires de la Formule 1, même si sous l'impulsion de Jackie Stewart, la mentalité des pilotes change au point que mourir au volant n'est plus considéré comme une fatalité. L'accident le plus emblématique de cette période est celui de l'Autrichienne Jochen Rindt, qui au volant de sa révolutionnaire Lotus 112, qui avec ses radiateurs latéraux préfigure l'esthétique des monoplaces de course des décennies à venir, trouve la mort lors des essais du Grand Prix d'Italie en 1970. Solidement en tête du classement général au moment de son décès, il deviendra champion du monde à titre posthume. Malgré les multiples drames qui l'ont touché, mort de Clark en avril 68 et de Jochen Rindt en septembre 1970, Lotus reste l'écurie dominante et est à nouveau titrée en 1970 avec le Brésilien Emerson Fittipaldi. La suprématie de Lotus est régulièrement contestée par l'écurie Tyrrell, sur laquelle Jackie Stewart remporte le titre en 69, 71 et 73. Le premier de ces trois titres est acquis au volant d'une monoplace française, Matra, Tyrrell prenant pour l'occasion le nom de Matra International. En 1974, Fittipaldi décroche son second titre mondial et le premier de l'écurie McLaren, mais la saison est marquée par le retour en forme de la Scuderia Ferrari, emmenée par Niki Lauda. Titré en 1975, puis en 1977, après avoir laissé échapper le titre en 1976 à James Hunt de McLaren, dans des circonstances dramatiques. Le 1er août 1976, lors du Grand Prix d'Allemagne sur le Nürburgring, Niki Lauda est victime d'un grave accident au volant de la Ferrari 312 T2. Coincé dans la carlingue détruite qui prend feu, il est brûlé au visage et défiguré. C'est un miraculé.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.